Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream, Neil?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Bah, pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonjour à tous, bonne année, je suis avec Pierre Bonneau. Bonjour Pierre.
Ami.
Et vous écoutez CinéZoom, l'émission qui parle de cinéma. Alors bienvenue dans cette première émission de CinéZoom, une émission pilote. Hein. Et Pierre, bah, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait là? Et qui sommes-nous aussi?
Eh bien Rémi Ratinska, donc tu es là parce que tu es un professionnel du cinéma d'abord, un technicien, un monteur, et puis tu es là aussi parce que tu es le directeur du festival dont on vous parlera un peu plus tard.
Et toi Pierre, donc tu es un grand amateur de cinéma et président de l'association KinoZoom qui a préparé cette émission.
Donc effectivement, émission mensuelle qu'on va vous proposer donc à partir de 2024 et qui s'appuie sur les activités de l'association KinoZoom qu'on va vous présenter dans la foulée, et l'idée est de se retrouver ensemble et puis de parler un peu cinéma.
Tout simplement. Et donc bah, je vous dévoile le sommaire de cette première émission. Donc en première partie, nous allons inaugurer le format de l'invité, où une personnalité du cinéma viendra nous parler de son œuvre, de son métier. Alors cela pourra concerner des créateurs, des acteurs, des techniciens ou encore des montreurs de films qui sévissent localement ou pas. Et pour cette première émission, nous sommes, bah, comme qui dirait, invités nous-mêmes, hein, Pierre, pour vous parler de l'association KinoZoom, de toutes les activités qu'elle met en œuvre. Et en seconde partie, nous aborderons le film du Ciné-Club de ce mois de janvier, à savoir Buffet froid de Bertrand Blier. L'occasion de vous en dire un peu plus sur ce cinéaste et ce film singulier que vous pourrez découvrir au cinéma Le Renaissance si vous écoutez cette émission avant sa diffusion. Et enfin, nous vous proposerons un jeu concours et aborderons les rendez-vous à venir pour l'association KinoZoom.
Eh bien écoutez, je propose qu'il faut qu'on démarre tout de suite pour expliquer un petit peu ce que c'est que cette association KinoZoom, là, dont on a à peine commencé, qu'on en parle déjà sans cesse. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est KinoZoom?
Tout à fait. Donc ce qu'on peut dire de l'association KinoZoom, c'est qu'elle a été créée en 2010 par un groupe de personnes férues de cinéma et désireuses de faire partager leur passion pour le 7e art et une vision singulière du lieu cinéma. Donc on pourrait dire que l'éthique cinématographique de l'association réside dans sa vision du cinéma comme un lieu de vie, de partage et de rencontre. Et c'est dans cette perspective qu'elle a mis en place au cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte, où se situe par ailleurs son siège social. Donc depuis octobre 2010, des séances rencontres, qu'elle a donné naissance en mars 2011 au ciné-club Le Renaissance et qu'elle a créé en 2012 le festival du film de Fontenay-le-Comte, de la littérature au cinéma. Alors l'association KinoZoom opère également dans le domaine de la création et de la production du visuel. Ses membres, comprenant des réalisateurs, des monteurs, voire même des producteurs, ont participent depuis sa création à de nombreux projets cinématographiques. La réalisation de courts-métrages, de longs-métrages, captation de spectacles, montage vidéo, entre autres. Et de fait, l'association participe à la production d'œuvres réalisées par des professionnels. Et ses savoir-faire, elle les transmet dans un souci d'éducation aux images, en proposant des ateliers audiovisuels à la fois théoriques, hein, avec l'analyse de films, histoire du cinéma, mais aussi et surtout pratiques, avec donc l'écriture de scénarios, la réalisation et post-production auprès de participants jeunes et moins jeunes. Alors le public auquel s'adresse l'association justement est très large, hein. Elles peuvent concerner le jeune public, comme je le disais, pendant et hors temps scolaire, ou le public retraité, les publics dits des quartiers difficiles, les publics en difficulté ou empêchés, hein, comme à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte par exemple. Et en fait, ça concerne vraiment tout le monde, en premier lieu bah, les amateurs de cinéma, mais aussi ceux qui veulent découvrir. Et donc si les activités de l'association KinoZoom se sont plus particulièrement développées à Fontenay-le-Comte, donc lieu d'implantation de son siège social, bah, elle œuvre aussi un petit peu au-delà, que ce soit en Charente-Maritime ou en Nord-Vendée et encore ailleurs, pour partager sa vision du cinéma au plus grand nombre. Donc là, c'était un peu les grandes lignes des activités de l'association. On va rentrer un petit peu plus en détail sur ces différentes activités. Pierre, tu vas nous parler du Ciné-Club.
Bien, effectivement. Merci Rémi pour cette première présentation. Sachant qu'une activité régulière de l'association, eh bien, c'est de proposer un Ciné-Club. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous tous les mois au cinéma de Fontenay-le-Comte. Et puis, on propose des films qui se veulent des films du patrimoine, mais des films de genre assez variés. Il y en a certains qui sont... plus populaires, il y en a qui sont un peu plus confidentiels, mais l'idée c'est d'essayer de brasser différents genres, différentes nationalités de films pour essayer de plaire à de nombreux publics différents. Alors cette année par exemple, on a pu projeter des films aussi différents que Un tramway nommé Désir, Le docteur Jivago, Les 400 coups ou 100 000 dollars au soleil, ou même La Strada juste en décembre. Et puis le programme à venir pour les mois à venir, eh bien, on a des choses aussi très variées, hein, puisqu'on a Buffet froid, là, on va vous en reparler dans la foulée. Puis on a un western, Le trésor de la Sierra Madre. On a un film très, très différent avec Festen, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on a aussi plusieurs films des frères Cohen, donc pour vous donner une image très, très variée de ce qu'on peut proposer. Donc, il y a 10 films qui sont proposés sur l'année, de septembre à juin. Et il y a un tout petit comité dans l'association qui se réunit, et puis c'est l'occasion d'une confrontation pour essayer de se mettre d'accord tous ensemble. Et on a tous des envies ou des choix différents. Alors on s'accorde, on fait aussi avec les possibilités de diffusion des films. Et puis on construit comme ça un programme pour l'année. Voilà, et c'est donc rendez-vous une fois par mois. C'est un vendredi à 20h30. Il y a une séance de rattrapage le lundi suivant. Et en plus, il y a un partenariat avec un des collèges de Fontenay-le-Comte, le collège Tiraco. Et donc là, on propose quelques films qui sont un petit peu plus adaptés pour des collégiens. C'est 4 films qui sont en général avant les vacances scolaires, donc qui ont un horaire un peu différent. Là, c'est le mercredi à 18h. Vous voyez, l'horaire est un petit peu aussi adapté au public plus jeune qu'on essaye d'attirer à cette occasion. Le tarif est de 5 euros, c'est-à-dire qu'on prend en compte que ce n'est pas une séance comme les autres au cinéma, hein, donc c'est une séance particulière. Et il y a un avantage pour les adhérents de l'association, c'est un tout petit peu moins cher. Voilà. Donc ça, ce sont des retrouvailles mensuelles qu'on propose à tous ceux qui aiment le cinéma.
Très bien, merci Pierre. Parmi les activités assez récurrentes de l'association, il y a aussi les ateliers. Donc les ateliers sont proposés à un large public, bien que davantage ciblés sur le public scolaire. Et ils se veulent assez ludiques, hein, tout en se déroulant de façon très, très professionnelle. Hein. L'idée est d'initier les intervenants, enfin les participants au matériel de prise de vue, de prise de son, de post-production, et de les familiariser avec le langage cinématographique, et puis surtout de prendre plaisir à faire du cinéma. Alors je vais évoquer rapidement un petit peu les récents ateliers qui ont été proposés au lycée Bel Air, il y a quelques semaines, au lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte, avec un suédage de Maman, j'ai raté l'avion. Donc qu'est-ce que c'est un suédage, Pierre? Là je te prends un peu au dépourvu, mais...
Ah non, oui, un suédage, ça c'est quelque chose qui est très pédagogique, hein. C'est reprendre les grandes lignes d'un film et puis essayer de refaire le film avec les moyens du bord. En improvisant avec ce qu'on a, les moyens qu'on a, l'imagination pour essayer de transposer le film ou certaines séquences principales retenues du film pour faire une espèce de résumé en quelques minutes du film.
Il est bon. C'est effectivement tout à fait ça. Et ça provient en fait d'un film de Michel Gondry qui était sorti en 2008, Soyez sympa, rembobiné, qui avait un petit peu expliqué, inventé même ce concept. Et donc c'est vrai que c'est très, très, très en vogue et ça se fait beaucoup. Et donc là, c'était sur Maman, j'ai raté l'avion. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui est prévu dans le courant de l'année, toujours au lycée Bel Air. Au collège Tiraco, donc il y a un atelier qui existe depuis maintenant 5 ans. Et donc tous les ans, on se réunit toutes les deux semaines avec un petit groupe d'élèves, de volontaires, pour créer un petit film donc sur des sujets assez variés, avec des formes assez variées également. Et cette année, on est parti sur l'adaptation d'une nouvelle. Vous en saurez plus dans le courant de l'année. Parmi les ateliers récurrents aussi, on a la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, avec qui on travaille assez régulièrement pour réaliser ou projeter des films ou réaliser des petits films en lien avec les activités culturelles de la maison d'arrêt. parce qu'il y en a, pas mal, hein, que ce soit des petits concerts, des représentations théâtrales. Et l'idée est vraiment de créer en fait, des petits reportages avec les détenus en leur laissant un peu la main sur le matériel, le montage, voilà, qu'ils s'approprient un peu tout cela et en vue de diffuser ces films pour les familles voilà, qui viennent visiter les détenus. Une autre participation, c'est le festival Festiprev. Alors ça se passe à La Rochelle et on intervient là cette année au collège Missy de La Rochelle pour réaliser en fait un film de prévention. C'est un peu ça le thème du festival, c'est prévention et citoyenneté. Et donc l'idée est de réaliser un film de moins de 5 minutes pour être en vue d'être diffusé lors de ce festival. Voilà, d'autres ateliers sont à venir, c'est vrai qu'on en a souvent. Et puis bah voilà, si vous écoutez cette émission et si vous êtes intéressé par nos interventions, voilà, on est prêt à y répondre éventuellement. J'en ai fini avec ça, maintenant on peut parler des participations à des productions audiovisuelles. Donc on forme un petit peu, voilà, modestement on va dire, des jeunes et des moins jeunes à la prise de vue, la prise de son, mais on participe aussi à des productions voilà, plus professionnelles, et alors que ce soit pour des petits courts-métrages, pour du documentaire. Et là, en ce début d'année, bah pour un clip, en fait, là, on est en train de participer à la production d'un clip de Arnold, qui est un artiste, enfin un chanteur, voilà, qui donne dans la chanson française, et là, qui nous a sollicité pour la réalisation du clip Train Train, qui est extrait de son album à paraître en 2024, et bon, qui a une particularité, c'est que ce clip va être tourné en pixilation. Qu'est-ce que la pixilation, Pierre ?
Bon, là, je sais que... Je te laisse expliquer.
Et donc, c'est une technique d'animation hein, en stop motion, c'est-à-dire image par image, mais là, pas avec des figurines ou de la pâte à modeler, mais avec des gens, avec des vrais gens, avec des vrais objets. Et ça donne une esthétique toute particulière. Et voilà, on vous fera découvrir ça pareil, très, très prochainement quand le clip sera sorti. Et donc, ces activités diverses et variées connaissent un temps fort, voilà, tous les ans depuis maintenant bien. Bientôt 12 ans. Et ça, Pierre, tu vas nous en parler puisqu'il s'agit du Festival du film de Fontenay-le-Comte.
Alors effectivement, c'est un grand événement hein, que le Festival du film, dont la 12e édition arrive cette année. En fait, il a commencé en 2012 et puis il y a eu un petit intervalle en 2020 avec le Covid. C'est un festival qui dure une semaine à Fontenay-le-Comte et qui progressivement prend de plus en plus d'ampleur. Il est toujours lié, il s'intéresse au lien entre la littérature et le cinéma. Et année après année, eh bien, le thème de chaque année tourne autour de ce thème principal. Donc on a pu travailler dans le festival sur le roman, les écrivains, le voyage, l'enfance. L'année dernière, c'était sur le fantastique. Et cette année, eh bien, on va passer une semaine autour du sujet à table, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu le lien entre la nourriture et le cinéma. Alors ça nous intéresse beaucoup, ça nous amuse beaucoup. Il y a beaucoup de films qui parlent de ça, évidemment. Il y a des grands incontournables auxquels je pense qu'immédiatement on les rattache à ce sujet-là. Et puis il y a aussi des curiosités et plein de choses. Donc on est en train de construire ce programme. C'est fin mars, hein, c'est du 18 au 24 mars. Et c'est pas seulement des films, le festival. C'est aussi beaucoup de rencontres avec plein d'invités. Alors selon les années, hein, on a des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des universitaires qui viennent. Et puis, ils viennent pour parler de leurs films, de leurs activités. Ce qui fait qu'on a des tables rondes autour d'un invité. On a des débats. Cette année, on a le projet d'avoir des lectures également. On propose aussi des conférences. Donc, beaucoup de choses, vous voyez. Et puis, on pense aussi aux plus jeunes. Il y a une programmation enfant. Il y a aussi une programmation scolaire, d'ailleurs. Et puis, il y a des moments dans la semaine. Il y a des ciné-goûtés pour les plus jeunes. Il y a des ciné-petits-déj pour le week-end. Et puis, il y a même un ciné-concert au moment de la séance de clôture. Donc, on voit que c'est une semaine qui est très remplie et qui est un grand moment dans l'activité culturelle de la ville, puisqu'on est autour de 3-4 000 entrées à la semaine, ce qui est beaucoup, beaucoup hein, pour une ville comme Fontenay-le-Comte. Donc, c'est un très grand moment chaque année dans la vie culturelle.
Dont on vous reparlera dans les prochaines émissions, forcément. Merci Pierre pour cette présentation. On a forcément hâte d'y être. Et en attendant d'y être, on va passer à notre deuxième partie consacrée à Bertrand Blier et à son film Buffet froid, juste après ça.
Bien, on vient d'écouter la musique qui accompagnait le générique de fin des acteurs de Bertrand Blier, et ça nous fait toute notre transition vers le film Buffet froid, qui est le prochain film du Ciné-Club, donc qui passe vendredi 12 janvier. Et Rémi, tu vas peut-être nous parler, avant de parler de Buffet froid, de Bertrand Blier, le réalisateur. Alors, qui est Bertrand Blier ? Explique-nous.
Ça s'impose. Alors, donc, Blier est né en 1939 à Boulogne-Billancourt. Et pour commencer à le présenter, je dirais que c'est d'abord le fils de son père, Bernard Blier, donc monstre sacré du cinéma, hein, français s'il en est, et qui aura eu vraiment une très grande influence sur son fils. C'est lui qui lui a fait découvrir la littérature, le cinéma, et voici ce que Bertrand Blier pouvait dire de son père.
Il était extraordinairement envahissant, parce qu'il avait une présence physique exceptionnelle. Les grands acteurs, c'est comme ça. Ils entrent dans une pièce, la pièce change de volume. Lui, il était comme ça, comme Depardieu, comme Mastroianni, comme Gabin, tous ces gens-là. Bon. Et puis le regard était un regard... Il y avait ce phénomène que les personnages qu'il interprétait venaient dans ma vie aussi, parce que quand il rentrait le soir, il venait avec son personnage, s'il jouait un assassin. Donc il m'a fait autant de mal que de bien, ce qui est souvent le cas des parents. Mais il m'a appris tout. Il m'a appris tout, ce qui m'a permis d'être par la suite un adulte, évidemment, et de faire des choses bizarres.
Alors, c'était un extrait de l'émission Café Picouli, diffusé sur France 5 le 10 septembre 2010. Et un extrait intéressant, à mon sens, car on sent que l'admiration qu'il avait pour son père réside autant dans ce que ce dernier lui a transmis que dans ce qu'il dégageait en tant qu'homme et acteur. Parce que Blier était effectivement de ces acteurs qui remplissent l'espace, hein, qui peuvent transcender une séquence de cinéma. Et c'est ce type d'acteur, hein, que va chercher plus tard Blier pour jouer dans ses films. On pense à Gérard Depardieu, Philippe Devers et Miu Miu, hein, qu'il va révéler dans son premier grand succès, on va dire, hein, les Valseuses, et avec lesquelles il tournera d'ailleurs de nombreux films par la suite. Hein. On pense après à Jean-Pierre Marielle, Michel Serrault, Jean Carmé, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Noiret, Michel Bouquet pour les hommes. On a aussi Nicole Garcia, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Anouk Grimbert, Jeanne Moreau pour les femmes. Alors je ne cite pas tout le monde, hein, il y en a énormément. Mais on peut terminer par son père, hein, Bernard Blier, qui jouera dans trois de ses films, dont Buffet froid, et nous en parlerons tout à l'heure. Et je dis trois films, mais on peut presque dire quatre, puisque Bertrand Blier rend un hommage vraiment émouvant à son père dans le film Les Acteurs, qui réunit une pléiade d'acteurs assez impressionnante et qui est un véritable cri d'amour à cette profession et à ces personnes un peu à part, hein, tant par leur talent que par leur travers. Alors je me suis pas mal avancé, on va revenir un petit peu en arrière. Comme je disais, Blier était très influencé par son père, qui le traînait sur les plateaux de tournage, et ça a été un peu sa première école de cinéma, et ça lui a évidemment ouvert les portes de la profession. Plus tard, il poursuivra ses classes, hein, si je puis dire, notamment auprès de Georges Lautner, en tant qu'assistant réalisateur pour plusieurs de ses films. Et en parallèle, Blier s'adonne à la littérature qu'il affectionne particulièrement. Il va écrire plusieurs romans, dont certains qu'il adaptera comme son tout premier, hein, Les Valseuses, qui était un roman à la base. Et il est également l'auteur des dialogues de ses films. Et outre le choix de ses acteurs, c'est donc les textes, hein, qu'il donne à lire et à interpréter à ses acteurs, justement, qui font la particularité du style Blier, hein, selon moi. Et là, il faut dire qu'il y a de quoi s'amuser, hein. Donc c'est souvent très écrit, parfois théâtral, mais souvent truculent et drôle. On n'est jamais très loin d'un Michel Audiard, hein, dans la gouaille ou dans le rythme du phrasé. Et avec peut-être une touche d'absurde en plus, je dirais, qui pourrait le rapprocher d'un Samuel Beckett, hein, que Blier cite assez souvent parmi ses influences. Donc des acteurs hors normes et des dialogues qui, pour une grande partie de sa filmographie, sont au service d'un ton, il faut dire, assez provocateur. Hein. Chez Blier, on ne ménage pas grand monde et on ne s'encombre pas avec des courbettes. C'est un cinéma qui bouscule sciemment le spectateur, le faisant assister à des séquences souvent drôles, parfois de mauvais goût, voire choquantes. Et ce goût pour la provocation était présent dès le titre de son premier film intitulé « Hitler connaît pas ». Alors c'était un documentaire. Ce premier film de Blier est une forme de documentaire, on va dire. Où il s'entretenait avec une dizaine de jeunes gens de l'époque, et voilà, il les interviewait sur les tendances de l'époque, et il en a fait un montage assez drôle et qui est pas vraiment documentaire, parce qu'après il triche un peu, mais voilà, c'est un objet filmique intéressant à voir. Et s'en est suivi après surtout les sulfureux, les valseuses, calmos, préparez vos mouchoirs, etc. Avec des thèmes récurrents, hein, qui tournent autour de la criminalité, de la sexualité déviante, débridée. Il s'intéresse pas mal aux marginaux. Et donc avec ce ton, on pourra être peut-être surpris aujourd'hui, et ça pourra aussi paraître un peu daté, mais faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque pour pouvoir saisir pleinement l'impact de ces films sur les spectateurs d'alors. Hein. Par exemple, pour Les Valseuses, on n'est pas très loin de mai 68, hein, donc c'est effectivement plus le contexte d'aujourd'hui. Mais il y a aussi une touche d'absurde dans ces films qui même encore aujourd'hui, voilà, malgré le côté daté, je pense que ça peut nourrir quand même le spectateur. Et pour autant, hein, sa filmographie n'est pas faite que de provocations, hein, elle n'est pas dénuée de tendresse et d'affection pour ses personnages, qui sont souvent des marginaux, hein, comme je le disais. Et voici ce qu'il pouvait en dire dans ce nouvel extrait.
Je parle souvent de personnages qui sont en difficulté, ou qui sont des laissés pour compte, ou des gens du mauvais côté de la rue, comme disent les Américains. J'aime ces gens-là, oui, parce que ça permet de les hisser, après de les sortir, de les monter vers quelque chose, et puis ils sont plus romantiques.
Voilà, donc ce que je viens de citer sont autant d'éléments qui font la singularité de Blié. Hein. Et je voudrais en citer un dernier, et pas des moindres, celui de la forme. Parce que Blié est aussi un cinéaste qui bouscule par la forme au cinéma. Donc il aime jouer avec les codes de la narration, hein, des récits chahutés, le recours aux ellipses, hein, notamment aux effets de montage parfois surprenants. Et c'est aussi dans son esthétique qu'il détonne, je trouve, hein, par ses décors, ses cadrages, des mouvements de caméra parfois très travaillés, hein, des jeux de lumière aussi. Alors il va alterner, hein. Des fois, il aura des mises en scène assez léchées, assez esthétiques, et des fois un petit peu plus crues. Mais souvent, ça confère quand même à ces films une atmosphère voilà, parfois un peu au-delà du réel. Et cela pourrait se rapprocher hein, pour certains de ces films d'un cinéaste comme Buñuel, hein, ce que Blié ne renierait pas, je pense. Donc Blié provocateur, oui, Blié amoureux des acteurs aussi, mais il n'en oublie pas pour autant de faire du cinéma et de transporter son spectateur ailleurs. Et c'est particulièrement vrai dans Buffet froid, dont tu vas nous parler, Pierre, en détail, après cette bande-annonce.
Gueule.
Moi, je suis chômeur, et vous ?
Inspecteur de police.
Ça tombe bien.
Ben voilà, j'ai un couteau dans le ventre.
Et puis ce qui m'emmerde, c'est que le couteau, c'était le mien.
Mais c'est pas moi ! Ça peut pas être moi ! J'arrive ! J'étais pas là !
Des crimes et des assassins, je m'en farcie toute la journée. Hein ? Actuellement, je suis pas en service, je mange.
Si tu viens de coucher, je te promets, j'enlève mes chemises de nuit.
Je vous présente l'assassin de ma femme.
Très heureux.
Attendez-moi ! Attendez-moi !
Qu'est-ce qui vous arrive ?
J'ai les foies.
Ça sent le tabac.
Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça.
Et vous n'allez pas tuer un médecin, là ?
T'as jamais tué personne, toi ?
Si, bien sûr. Quelques erreurs de diagnostic.
C'est la première fois que je vois mourir un homme.
Moi aussi. En général, j'arrive trop tard.
Quand on est incapable de rendre sa femme heureuse...
Je te conseille pas de toucher à ma femme, toi, hein ?
Tu tousserais quand j'aurai envie d'y toucher.
Oh, ça suffit, merde !
Alors, si je comprends bien, chaque fois que j'ai trouvé une bonne femme, tu vas me la zigouiller !
La faute à qui ? Vous la laissez toute seule dans une tour vide ! Mettez-vous à ma place !
Il va quand même falloir envisager de mettre un terme à cette hécatombe, hein.
Ça pourrait être pire.
Hop, par ici, messieurs ! Vous avez mis le mur ! Et les jambes écartées !
Attention, je suis l'inspecteur principal Morvandio.
Le héros de la résistance ?
Morvandio pas mort. Morvandio vendra chèrement sa peau.
Donc c'était la bande-annonce de Buffet froid qu'on vient d'entendre. Bon, à la radio, ça passe vraiment très très bien. On voit tout de suite hein, les particularités, l'étrangeté de Buffet froid. Donc c'est le sixième film de Bertrand Blié qui est sorti en 79. Et ça détonne beaucoup hein, dans la filmographie de l'époque. Hein. En 79, Rémi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au cinéma ?
Alors c'est quand même une grosse année. Hein. Je ne vais pas citer tous les films qui sont sortis, évidemment. Mais on a quand même Apocalypse Now hein, de Coppola, Palme d'Or. Ex aequo avec Le Tambour de Schlondorf, qui est aussi assez particulier. Et puis on n'a pas deux Palme d'Or tous les ans. On a également Alien de Ridley Scott, I comme Icare de Verneuil, R de Miloš Forman. Et côté français, on note la sortie d'un Lautner, hein, qui aurait été aussi une influence pour Blié, avec Flic ou Voyou. Et aussi Série Noire d'Alain Corneau. Alors Alain Corneau qui a débuté en même temps que Blié et qui partage quand même, que ce soit dans les thèmes ou même dans la forme, des similitudes avec le cinéma de Blié. Et donc là, on avait deux verres, notamment dans ce film assez fou. Côté français, on a aussi Les Bronzés font du ski. Hein. Et donc, Buffet froid.
Alors, on voit, donc c'est un film très très différent de ce qui peut sortir à l'époque. Très très différent aussi de ce qu'a fait Blié avant, hein, comme tu disais. Les Valseuses, Calmos ou Préparez vos mouchoirs. Ces films-là avaient vraiment des particularités différentes. Enfin, bon, dans Les Valseuses, il y a une espèce d'insouciance et d'énergie énorme. Dans Calmos, il y a... une espèce de rébellion machiste invraisemblable. Dans Préparez vos mouchoirs, même si le ton est plus triste, il y a quand même une volonté d'avancer, de s'en sortir des personnages. Et alors là, c'est complètement différent dans Buffet froid, on change complètement de registre. Et on dit souvent que c'est une espèce de film ovni, c'est un film ovni par rapport aux autres films, puis c'est un film ovni aussi pour Bertrand Blier. Alors de quoi ça parle Buffet froid? Alors c'est très simple et très compliqué, c'est l'histoire d'un chômeur, Buffet froid, qui s'appelle Alphonse Tram, qui a la trentaine, c'est Gérard Depardieu qui l'interprète, et puis ce personnage fait des rencontres, voilà. On pourrait juste s'en tenir là, sans en dire davantage. On va le redire, le film a une amorce très simple comme ça, et puis tout doucement il y a un petit trio qui se forme avec Depardieu, Bernard Blier, donc, qu'on a entendu dans la bande-annonce, qui fait un inspecteur de police, et puis Jean Carmé, qui est un assassin. Et donc voilà, trois personnages déjà qui s'assemblent étrangement, et puis tout cela vit dans un ensemble un peu nocturne, urbain, d'une espèce de banlieue déserte, de grands immeubles. Et alors, tout va être décalé dans ce film, hein, les dialogues, les situations, les réactions, les rôles des uns des autres. Rien ne se passe comme ça se passe d'ordinaire, dans la vie de tous les jours, puis dans les films surtout. Hein. Tout est pris à contre-pied. Ce qui est vraiment réussi, c'est la manière dont le film est construit à partir d'une première rencontre, d'un premier moment. Et puis, de péripétie en péripétie, la chose se construit, un peu comme un cadavre exquis, là, où... un petit côté marabout, bout de ficelle. Là. Les événements s'enchaînent. La relation de causalité est complètement cassée en mille morceaux, évidemment. Et pour parler un peu du scénario, je pense que c'est Blier qui en parle le mieux. Et donc, dans un extrait de l'interview dont on a pu entendre tout à l'heure, un autre extrait, il parle de son film. Donc, il nous explique un petit peu les ressorts scénaristiques du film.
Je me suis toujours posé des questions à propos de Buffet froid. Je me suis toujours demandé comment j'avais pu... surtout l'écrire, parce que le tourner c'était facile, mais l'écrire est une chose mystérieuse, parce que d'abord c'est le scénario que j'ai écrit le plus rapidement, je crois que je l'ai écrit en 2 semaines, donc c'est parti comme une équation parfaite, c'est-à-dire qu'on décortique le truc et à la fin on a le résultat, c'était un scénario comme dicté par l'au-delà, quoi. Quand je vois des extraits du film, je me dis, mais oui, c'est moi qui ai fait ça, mais j'ai l'impression que c'est un autre, quand même. Hein. Disons que c'est un aspect de ma personnalité, qu'il y a le metteur en scène du Valseuse et puis il y a celui de Buffet froid. C'est deux mecs différents. Enfin, ils se connaissent, hein, ils se renseignent l'un sur l'autre, mais c'est vraiment deux directions. C'est beaucoup Gérard Depardieu qui a été la muse de ce film, parce que évidemment, je pensais à lui tout de suite. Je pensais à Gérard disant « mon couteau, je l'ai à la main, je vous le mets dans le ventre. » Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Quel effet ça vous fait? Rien, je suis en train de mourir, c'est bon. C'est une espèce de ton-là qui n'était possible qu'avec un acteur comme Gérard. C'est un homme qui est capable de faire des choses comme ça. Enfin, il ne va pas planter un couteau dans un ventre. Mais il a cette espèce de déraison... Et il le fait très bien passer au cinéma. Donc il y a eu un espèce de petit croquis. C'est un croquis d'acteur, en fait, un peu. Hein. Un assassin qui dit assassin, qui dit flic, évidemment. Donc c'était mon père. Et un autre assassin, le troisième, qui, plus tard, a été joué par Carmé. Donc c'était très peu de place pour les femmes, évidemment, puisqu'on les tue tout de suite, assez rapidement, ouais. Pour qu'elles ne nuisent pas à la progression du récit.
Oui, il finit par un mot drôle sur les femmes. Bon, évidemment, il exagère parce qu'il y en a une, on ne va pas révéler le film, mais il y en a une qui est évidemment décisive dans la progression du récit. Mais on voit bien, en tout cas, dans ce qu'il explique, hein, son idée, c'est il part d'une idée, puis il déroule, quoi. C'est comme ça qu'il construit son film. Il donne une situation et puis il explore les conséquences de cette situation. Voilà, c'est à la fois très simple et absolument génial, et ça marche très très bien. C'est ainsi que le film se fait. Et comme on n'arrête pas de parler de ce début, lui-même en parle, et puis je vous le dis, ça part de ça, je pense que ce serait bien de voir, d'écouter cette première séquence déclencheuse, donc qui est entre Gérard Depardieu et puis Michel Serrault, dans une scène qui est maintenant devenue culte, hein, et puis donc on va écouter. Donc c'est la première séquence de Buffet froid, la séquence par laquelle le film s'amorce.
Vous en avez pas, vous, des drôles d'idées?
Des idées de quoi?
Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un?
Pardon?
Je vous demande si ça vous arrive parfois d'avoir envie de tuer quelqu'un.
Qui?
N'importe qui.
Et pourquoi?
Comme ça, sans raison, une impulsion.
Non.
Jamais?
Non.
Même pas dans le métro?
Bon, pas vraiment.
C'est pourtant facile.
Bon.
Mais si... Vous avez votre couteau dans votre poche.
Oui.
Hop, le couteau sort de la poche. Clic, la lame jaillit. Tac, ça y est, le ventre est percé. Un quidam qui s'écroule. Personne ne s'arrête. On croirait un clochard qui roupille.
Qu'est-ce que c'est, un quidam?
Un anonyme. Un mec sans importance, dont la mort dérangera personne. Vous pensez jamais à des trucs pareils?
Non.
Alors à quoi vous pensez?
À votre couteau.
Il vous plaît?
Pas du tout. Vous devriez le ranger dans votre poche. C'est dangereux de jouer avec ce genre d'instrument.
Vous avez raison. Tenez, je vous en fais cadeau. Prenez-le.
Mais j'en veux pas.
Mais si, prenez-le. C'est un bon couteau. Faites-moi plaisir.
Mais j'ai pas besoin de couteau.
Mais moi non plus. Si je le garde, je sens que je vais faire une connerie.
Mais je m'en fous de votre couteau. Je le mets là, voilà. Je le connais pas.
Vous devriez pas laisser traîner un outil pareil. Ça pourrait donner une idée à quelqu'un.
Vous êtes pas un peu surmené en ce moment?
Ça risque pas, je suis chômeur.
Vous avez bien de la veine.
Croyez pas ça. Il n'y a rien de plus crevant que de se tourner les pouces.
Parce que vous croyez peut-être que le travail repose?
Ça dépend du travail.
Mais le mien, il m'emmerde, il m'abrutit. Le soir, je m'endors devant ma télé comme un paquet.
Eh ben moi, j'ose même plus m'endormir, parce que quand je dors, je fais des cauchemars épouvantables.
Quel genre de cauchemar?
Je rêve que je suis poursuivi par la police.
Pour meurtre?
Évidemment.
Et elle vous attrape?
Qui ça?
La police!
Non, justement, je la sens sur mes talons, mais elle ne m'attrape pas. Elle me traque, toute la nuit. Et je me réveille avec des sueurs froides, épuisé.
J'ai pas une raison pour vous balader avec un couteau dans votre poche.
J'ai toujours eu un couteau dans ma poche.
Pourquoi faire?
Pour couper ma viande.
Vous l'avez repris?
Quoi?
Votre couteau.
Non.
Il n'est plus là.
Mais je vous avais dit de ne pas le laisser traîner. Ça aura tenté quelqu'un par les temps qui courent.
Je vous ai interdit de monter dans le même wagon que moi.
Mais pourquoi? On était en train de devenir copains. Mais puisque je vous dis que c'est un cauchemar, vous n'allez pas me laisser tout seul.
Bon, voilà le début de cette première séquence. Bon, les dialogues sont incroyables. Hein. Je pense que on se rend vraiment bien compte de l'atmosphère. Et puis. On est obligé d'en parler un petit peu, on est à la radio, mais la mise en scène aussi accompagne ces dialogues. On est dans une gare de RER, la nuit, la gare est déserte, il y a juste ces deux personnages, il n'y a pas de bruit. Les seuls bruits, c'est ceux de l'escalator qu'on entend un petit peu au fond, et puis il y a les pas des personnages. Et puis, Blier joue avec ça, c'est-à-dire qu'il joue avec son cadrage, il fait un montage pour très très géométrique qui fait exploser la solitude des personnages. Les couleurs sont froides, grises, et puis tout d'un coup, il y a le rouge, des espèces de sièges en plastique, la moulée. Donc il y a une étrangeté immédiate à l'image. C'est-à-dire, à l'image, on voit de quoi ça parle. C'est pas seulement le dialogue, mais l'image parle d'elle-même. C'est une peinture de la banlieue, une peinture de froid, de solitude qui apparaît très très bien. Et par-dessus cette image qui claque, il y a les dialogues qu'on vient d'entendre, bon, qui sont extrêmement ciselés et qui sont très difficiles. Hein. C'est une scène qui est très très difficile à tourner. Il faut des acteurs de très très grand calibre pour réussir à faire passer ça, hein. Ça pourrait tomber complètement à plat, et là pas du tout, ça marche très très bien. Et je crois qu'il faut revenir encore vers ce que dit Bertrand Blier, qui s'entoure très souvent de grands noms, hein. Rémi, tu disais tout à l'heure, les castings de ces films sont souvent incroyables, et il en parle de ça, Bertrand Blier, puisqu'il revient sur cette première séquence qui n'était pas prévue avec Michel Serrault au départ, mais il va vous expliquer tout ça.
Tourner des scènes comme il y a dans Buffet froid, ce n'est pas difficile. On a trois grands acteurs, on les met dans un décor qui est bien, et on trouve tout de suite comment le filmer. C'était pas un film où il y avait des problèmes d'acteurs. Non, ce qui s'est passé, c'est que la scène... Oui, j'avais oublié ce petit détail qui est quand même assez important. C'est que la scène d'ouverture du film, que les gens connaissent avec Michel Serrault, a été tourné avec un autre acteur. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pensais pas du tout à Michel Serrault. Je pensais à un acteur beaucoup moins connu. Et j'avais engagé un ami qui s'appelait Jacques Rispal. Et on a commencé à tourner la scène de Depardieu Jacques Rispal, qui correspondait parfaitement au personnage. Et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu à la fin de la journée de tournage qu'on avait eu du mal. Et ce qu'on voyait en projection était pas, nous plaisait pas, etc. Donc on a décidé de laisser de côté la scène, de ne pas la terminer et de voir en fin de tournage ce qu'on allait faire. Et pendant le tournage, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a eu l'idée, si c'est moi ou si c'est le producteur. En tout cas, l'idée de prendre Michel Serrault, de proposer à Michel Serrault le rôle est venu et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on risque ? Rien, on va lui faire lire. Et Michel a dit tout de suite oui. Et c'est vrai que fort de cette expérience, je me suis aperçu qu'il valait mieux que mes dialogues soient joués par... que mes scènes soient jouées par des fous furieux, des monstres sacrés, qui peuvent faire avaler n'importe quoi aux spectateurs plutôt que par des acteurs de grande qualité, mais qui restent quand même relativement réalistes. Et ça, je peux... Mais alors le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le temps les monstres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Alors là, effectivement, il a absolument raison. Hein. C'est une séquence qui a besoin de monstres sacrés. Et il en a trois dans le film, hein, puisqu'il a Depardieu, Bernard Blier et puis Jean Carmet. Michel Serrault est juste là, autre monstre sacré, est juste là pour la première séquence. Et il a raison aussi, hein, les dialogues font immédiatement filer le film dans l'absurde. On n'est plus du tout dans l'énergie des premiers films. Là, je reviens un petit peu sur ce que disait Rémi tout à l'heure, puisque je disais au début de mon commentaire, c'est que c'est un ovni dans le cinéma français. C'est-à-dire que son idée dans Buffet froid n'est pas du tout de suivre la manière de faire qu'il a de ses précédents films. Il n'est plus du tout dans la provocation du ton, hein, ce qui était un peu cru, un peu trash, un peu haut en couleur dans Les Valseuses, ou même dans Calmos, hein, qui est un film qui est de plus en plus déjanté au fur et à mesure. Il n'y a plus non plus, et puis Calmos, il y avait aussi une espèce de truculence de tirade là, avec Marielle et Rochefort qui répondaient à l'espèce d'envolée joyeuse de Depardieu et de Vert dans Les Valseuses. Alors il n'y a plus du tout ça. Il n'y a pas non plus la provocation du sujet en lui-même, qui est une autre manière de provoquer qu'à Blier. Par exemple, dans Beau-père, le film qu'il fera après, c'est une histoire d'amour entre un homme et puis le fils de sa compagne. Le sujet en lui-même est provocateur. Tenue de soirée, le sujet lui-même est provocateur sur l'homosexualité ou les histoires à trois. La femme de mon pote, le sujet lui-même est provocateur parce qu'il est amoureux de la femme de son pote. Donc c'est pas la provocation du sujet qu'il cherche. C'est pas, il ne joue pas non plus avec la grammaire du cinéma ou avec les codes du cinéma. Comme tu disais Rémi, il y a des films où il va exploser complètement la manière de filmer. Dans Notre Histoire, il y a le film Notre Histoire qui date de 1984 avec Alain Delon, la chronologie est complètement perturbée, on ne sait pas si c'est un rêve ou une fiction, tout est mélangé, il ne fait pas ça non plus. Dans Merci la vie, c'est un film aussi incroyable, de 1991, toute la dernière heure, c'est un espèce de maelstrom complètement déjanté, le montage, les époques, tout est mélangé, donc là c'est vraiment la grammaire du cinéma avec laquelle il joue. Dans Les Acteurs, tu le disais Rémi, il y a énormément d'acteurs qui jouent leur propre rôle, il y a une mise en abîme permanente. Il se moque de lui-même, il finit avec lui-même, même il rend hommage aux acteurs, mais en jouant sur la manière même d'être un acteur. On se souvient de Serrault qui s'assoit et qui demande où est la caméra, ou il y a Jacques-François qui se demande où il n'y a pas de réalisateur dans ce film de merde, je cite, c'est absolument génial. Donc là, il joue avec la manière de faire le cinéma, ou encore dans son dernier film qu'on voit exceptionnel, où on a Clavier et Depardieu, qui sont des personnages dont on apporte le scénario au fur et à mesure. Donc il y a une petite voiture qui se gare et puis qui leur apporte les prochaines pages du scénario. Donc ils sont des fois à attendre le scénario, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc là, dans ces films-là, Blier joue avec la manière de faire du cinéma. Donc de temps en temps, il provoque avec le ton, de temps en temps, il provoque avec le sujet, de temps en temps, il provoque ou il joue avec la grammaire du cinéma. Dans Buffet froid, il ne fait pas du tout ça. Il est complètement dans autre chose encore. Il arrive en fait à prendre l'inverse de tous les postulats que l'on prend d'habitude quand on fait un film ou quand on a des réactions de causalité normale dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les séquences qui sont anormales sont filmées de façon normale, les relations de cause à effet sont inversées, le flic évidemment ne va pas arrêter l'assassin, ce serait beaucoup trop facile, le mari est moins affecté par la mort de sa femme que l'assassin lui-même, et ça crée un côté complètement absurde, un peu tragicomique, grotesque, avec évidemment, et on le sent hein, dans la bande-annonce, ou même dans la première séquence qu'on a entendue tout à l'heure, on sent qu'il y a un humour noir grinçant qui arrive sans cesse. Et Donc toute cette série d'événements qui se succèdent, en dehors des manières d'être et de réagir habituelles, cette manière de prendre le contre-pied systématique de toutes les choses, hein, à un moment donné ils vont à la campagne et ils n'en peuvent plus de la campagne, c'était infernal pour eux la campagne, quoi. Il y a Blié, il n'en peut plus des oiseaux qui chantent, enfin, il préfère les voitures, le verre partout, ça, bon. Donc il prend comme ça, Blié, le contre-pied systématique, évidemment ça ne peut se faire qu'une fois, ça ne marche qu'une fois, il le fait dans Buffet froid et il fait avancer son film comme ça. Donc c'est absolument unique, il y a très peu d'équivalents. Rémi, tu en parlais tout à l'heure, il faut aller du côté de Buñuel sans doute, hein, chercher des films un peu surréalistes, là, comme Le charme discret de la bourgeoisie ou Le fantôme de la liberté de Buñuel, ou comme ça, c'est vraiment un cadavre qui est parfait, hein, chaque petite scène se succède par une scène qui s'y rattache à minima et le film avance comme ça. Donc il y a un peu de ça dans Buffet froid, mais c'est à peu près les seules inspirations qu'on peut vraiment trouver. Il y a du Ionesco aussi. Bon. Voilà un peu pour tracer le portrait de Buffet froid. Donc il y a cette amorce, et puis après, ben, je pense qu'il faut venir au cinéma pour voir ce qui se passe, pour voir comment les acteurs en font quelque chose d'incroyable, d'improbable, comment il arrive à retomber sur ses pieds quand même, parce que Blié arrive à clore son film. Voilà, donc je pense qu'il faut absolument venir vendredi prochain, donc c'est le 12 janvier à 20h30 au cinéma. Il y a une séance de rattrapage de lundi 15 janvier à 18h. Alors là, c'est peut-être, hein, mais chacun verra, mais c'est peut-être la plus grande réussite de Bertrand Blié dans sa filmographie. En tout cas, c'est incontournable. Et puis, que l'on soit cinéphile passionné ou un simple curieux, Blié va vous prendre et va vous emmener en dehors du monde réel et va vous emmener bien loin du fauteuil dans lequel on est assis.
Merci Pierre. Bon, moi, je finis par quelques petites recommandations bibliographiques ou en DVD, hein, parce que bah, la plupart des films de Blié ressortent au cinéma. On programme Buffet froid à l'occasion d'une ressortie réalisée par le distributeur Splendor Film, qui est spécialisé dans les films anciens, entre guillemets, et donc qui fait une rétrospective, voilà, la rétrospective irrévérencieuse de Blié. Et à cette occasion, donc il y a pas mal, enfin la plupart de ces films, hein, qui ressortent aussi en Blu-ray DVD. Bon, de toute façon, Blié, c'est une vingtaine de films, hein, 19, donc en deux week-ends, c'est plié. Hein. Et donc on parlait de, voilà, Blié cinéaste, mais aussi Blié écrivain. Donc il a écrit quelques pièces de théâtre qu'il a notamment adaptées au cinéma, quelques romans qu'il a aussi adaptés. Et bah, je citerai éventuellement son dernier, hein, Fragile des bronches, qui date de 2022, et voilà, qui est un roman où on retrouve, hein, le ton Blié, son humour, et qui est aussi un petit peu autobiographique. Donc c'est à lire. Sinon, vous avez aussi la réédition du scénario de Buffet froid qui est ressorti en 2022 aux éditions L'Avant-Scène, ou encore la réédition du roman Les Valseuses, qui est également ressorti en 2022. Voilà, maintenant nous allons écouter un petit morceau, Pierre.
Alors effectivement, on propose de terminer l'émission, on va prendre l'habitude de terminer l'émission par un petit jeu final, et puis aujourd'hui ce petit jeu, c'est de découvrir une musique de film. Alors c'est pas n'importe quelle musique, c'est la musique que nous avons utilisée dans notre générique d'émission, voilà. Donc écoutez, on va écouter ça dans une seconde. Ce qu'il faudrait que vous retrouviez, c'est le nom du film et évidemment le nom du compositeur. On écoute ça tout de suite. Thank you. Alors voilà, cette fameuse musique, il nous faut le nom du film et le nom du compositeur. Et si vous avez l'un et l'autre, eh bien, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Dig Radio Sud Vendée ou via Instagram, toujours Dig Radio Sud Vendée. Vous mettez la réponse en commentaire et puis vous partagez et il y aura un tirage au sort sur les bonnes réponses pour gagner des places de cinéma pour le Ciné-Club. Voilà, donc à vos claviers ou à vos smartphones. Rémi, les prochains rendez-vous de l'association ?
Donc ce sera au mois de février avec donc pour le Ciné-Club avec Raging Bull le 9 février et le 12 février, ainsi que le Trésor de la Sierra Madre pardon, le 21 février. Alors si vous voulez un petit peu plus d'informations sur l'association, je vous invite à vous rendre sur les réseaux et sur nos sites internet. Donc il y a kinozoomcinema.com ou festivalfilmfontenay.com. On est également présent sur Instagram et sur Facebook. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Pierre.
Merci Rémi.
Voilà, on se retrouve donc en février hein, pour une prochaine émission. Et eh bien, au revoir à tous et puis regardez du cinéma.
Au revoir, à bientôt.
Coupé !
Elle était bien celle-là.
Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.